Notre Père, nous te louons pour ton plan souverain. Nous te louons parce que tu es maître de notre monde. Et nous te louons parce que tu as choisi de te révéler par ton Fils Jésus-Christ. Et nous te louons que par lui, en lui, nous pouvons avoir le repos de nos âmes. Quelle joie, Seigneur. Et que tu nous parles maintenant, nous te prions, que tu nous rappelles le bienfait que c'est d'être à Jésus. Et que tu attires des personnes à lui. Encore ce matin, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Et nous allons lire alors, Matthieu 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jusqu'à là, la lecture. Donc, question pour commencer. Pourquoi si peu de personnes en Belgique croient en Jésus comme sauveur et Seigneur? Pourquoi si peu de gens autour de nous croient en Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur? Peut-être si vous imaginez au boulot autour de vous, vous posez la question, combien de personnes ici sont chrétiens, croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur? Combien de personnes est-ce qu'il y aurait dans l'entreprise? Pas beaucoup, je pense. Ou à l'école, dans la classe, si on faisait la vôtre à main levée, qui croit en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Peut-être on serait le seul. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi il y a si peu de gens qui croient en Jésus? Peut-être on pense que ce serait plus facile de croire en Dieu à l'époque de Jésus. Au moins, il y avait Dieu venu sur terre qui était visible pour les gens. On aurait pu toucher le Fils de Dieu, on aurait pu voir les miracles qu'il a accomplis. Mais en lisant le récit de l'évangile de Matthieu, les choses ne sont pas si simples que ça. Oui, Dieu est venu sur terre dans la personne de Jésus. Il a enseigné comme personne d'autre dans toute l'histoire. Il a fait des choses, des miracles que seul Dieu peut faire. Il a envoyé des messagers pour proclamer sa venue. Et tout cela de chapitre 5 à 10 de cet évangile. Et puis au chapitre 11, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jean-Baptiste, quelqu'un qui a proclamé la venue de Jésus. Où se trouve-t-il? Si vous voyez ça, verset 2 du chapitre 11, il est dans sa prison. Il est en prison, a été rejeté et mis en prison. Et Jésus commence à fait des reproches aux villes qui n'ont pas cru en lui. Beaucoup de villes qui ont vu les miracles de Jésus n'ont pas cru en Jésus. On aurait pu se poser la même question. Pourquoi si peu de gens, même à l'époque de Jésus, ont cru en lui? Peut-être Jésus doit virer le stratège de sa campagne. Peut-être il doit avoir une meilleure présence sur les réseaux sociaux. C'est ça ce qu'on pense. Peut-être qu'il doit adapter son discours pour être un peu plus pertinent pour la société contemporaine. Pourquoi tellement de gens rejettent Jésus? C'est une question d'actualité pour nous. Et nous voyons la réponse, une partie de la réponse en tout cas, au verset 25 et 26. Nous devons nous rassurer que tout se passe selon le plan de Dieu. Dieu maîtrise la situation. Tout se passe selon son plan. Et ça, c'est la première chose que nous voyons dans ce passage. Nous devons comprendre le plan du Père. Versets 25 à 26. Le plan du Père. Relisons ces versets. Jésus loue son Père. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Jésus dit que Dieu est parfaitement maître de la situation. Rien n'échappe à son contrôle. S'il y en a qui rejettent Jésus, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. S'il y en a d'autres qui croient en Jésus, cela aussi relève du plan de Dieu. Jésus appelle Dieu son Père ici. Rappelons-nous, Jésus est le Fils qui existe depuis toute l'éternité en relation avec le Père et le Saint-Esprit. Un Dieu existe en trois personnes. C'est ça ce que dit la Bible. Et Jésus l'appelle le Seigneur du ciel et la terre, celui qui est tout-puissant. Il n'est pas au ciel en train de se dire, « Mince, si seulement je pouvais faire quelque chose pour changer la situation et amener plus de personnes à croire en Jésus. » Non, il maîtrise la situation, le Seigneur du ciel et de la terre. Et c'est un peu choquant, ces versets, mais Jésus nous enseigne que le Père a caché son royaume à certaines personnes. Il l'a révélé à d'autres. Attends, me dites-vous peut-être, Dieu se cache des gens? Je pensais qu'il voulait être trouvé par tous. Mais parfois, nous devons corriger nos a priori par ce que la Bible nous enseigne. Jésus dit dans ce verset que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ces choses, c'est des choses qui entraient au royaume, qui entraient au sens des miracles que Jésus a accomplis. Le fait que Jésus est le roi divin venu dans son monde et que toute personne qui se confie en lui aura la vie éternelle, une place dans le monde nouveau qu'il va créer. Mais Dieu a caché ces choses, dit Jésus, à certaines personnes. Mais on se dit, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste. Tout le monde ne mérite-t-il pas d'avoir la chance de connaître Dieu? Mais la réponse que donne la Bible, c'est que personne ne mérite de connaître Dieu. Nous avons tous choisi de le rejeter. Dieu s'est révélé à chaque être humain, soit dans la Bible, si nous avons eu l'occasion de la lire, soit dans la création, rien que par le monde dans lequel nous vivons, nous connaissons tous que Dieu existe. Et par la conscience qu'il nous a donnée, il indique ce qui est bien et mal. Mais nous avons tous choisi de ne pas suivre la voie de notre conscience, de ne pas suivre le Dieu qui nous a créés. Et au lieu de cela, nous avons vécu comme si nous étions Dieu de notre propre vie. Nous établissons nos propres règles, nous refusons qu'une quelconque divinité puisse dicter comment nous devrions nous comporter. Nous avons tous rejeté Dieu. Et du coup, personne ne mérite de trouver Dieu. Lorsque Dieu cache les choses qui concernent son royaume à certaines personnes, il ne fait que ce qui est juste. Et d'ailleurs, c'est ce que ces personnes veulent aussi. Ils ne veulent pas connaître Dieu. Et s'il choisit de révéler sa bonne nouvelle à d'autres, c'est un acte de pure grâce et de bonté imméritée de sa part. Le verset 25 dit que le Père a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ici, ce n'est pas l'idée que toute personne qui a fait l'université est d'office exclue du royaume de Dieu. Merci Seigneur. Mais c'est l'idée que ceux qui se pensent sages et intelligents, trop intelligents pour Dieu, ne vont pas le trouver. Dieu s'est caché de ces personnes-là. Et cela explique pourquoi il y a des scientifiques de haut niveau qui passent leur vie à analyser le monde que Dieu a créé tout en niant l'existence de Dieu. C'est frappant, n'est-ce pas? Parce qu'ils se croient sages à leurs yeux. Et Dieu leur a caché la vérité. Et cela explique pourquoi il y a des personnes qui enseignent la théologie comme leur métier, qui passent leur vie à étudier la Bible, mais qui ne placent jamais leur confiance en Jésus. Mon moniteur du groupe de jeunes, lorsque j'étais plus jeune que je le suis maintenant, il nous a raconté une fois, il a fait les études de théologie dans une université. Et le premier jour, le directeur de la faculté s'est mis debout en disant « Dieu est mort. Et vous avez 3 ans pour inventer un Dieu que vous voulez, dans lequel vous voulez croire. » Donc, en enseignant la théologie, en enseignant la Bible, il dit « Il n'y a pas de Dieu. Le Dieu de la Bible n'existe pas. » Mais comment est-ce possible? Ces gens si intelligents, si sages. Ben, c'est parce que Dieu à cacher ces choses aux sages et aux intelligents. Et Dieu a révélé ces choses aux enfants. Aux enfants. Ici, Jésus ne parle pas seulement d'enfants dans le sens littéral, car il inclut les disciples dans la catégorie enfants. Et si nous avons cru en Jésus, nous sommes compris dans la catégorie des enfants ici. Ce n'est pas des gens naïfs ou crédules, c'est des gens qui sont prêts à avouer qu'ils ont eu tort, qu'ils sont pécheurs, rebelles contre Dieu, et qu'ils ont besoin du pardon de Dieu. La capacité de faire confiance à l'autre. Dieu a révélé son royaume à ceux qui lui feront confiance. Pas à ceux qui se croient trop intelligents pour Dieu, mais à ceux qui sont prêts à admettre le besoin de lui. Notre besoin de son pardon. C'est ça le plan de Dieu, dit Jésus. Au verset 26, Jésus dit, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Dieu a caché son royaume à certains, il l'a révélé à d'autres. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Dieu n'a pas réservé son royaume à ceux qui avaient l'intelligence pour comprendre ses voies. Il n'existe pas un certificat d'école pour qu'on soit admis dans son royaume. La personne la plus simple peut comprendre la bonne nouvelle et croire en Jésus. Souvent dans la société, si on cherche à mettre sur pied un club ou un groupe de personnes pour faire une tâche, on cherche les gens les mieux qualifiés pour cela, les plus brillants, si on peut. Mais Dieu cherche les gens qui se sont eux-mêmes disqualifiés par leur péché et qui le savent et qui sont prêts à admettre qu'ils ont besoin d'être pardonnés par Dieu. Ce n'est pas qu'il n'y ait aucune personne intelligente qui est chrétienne. Je me suis dit, en préparant ce message, en disant, pourquoi est-ce que je vais implanter une église dans une ville universitaire où il y a beaucoup de gens qui sont intelligents? Si Dieu a caché son royaume des sages et des intelligents, est-ce que, voilà, on est mal parti, peut-être? Non, c'est pas le fait d'être intelligent qui empêche en soi de devenir chrétien. C'est juste que la façon dont une personne intelligente va venir au Seigneur, c'est la même façon que la personne la plus simple va venir au Seigneur. C'est humblement, en faisant confiance à Jésus, à sa mort, à la croix. Ce n'est pas par son intelligence qu'il va raisonner son chemin vers Dieu. C'est en venant simplement, humblement, en laissant de côté son orgueil. Donc il ne faut pas imaginer que Dieu aimerait tellement que plus de personnes viennent à lui. Oui, dans un sens, c'est vrai, nous devons prêcher la parole à tous pour qu'ils viennent à la foi. Mais Dieu maîtrise la situation. Il ne faut pas croire non plus que les preuves en faveur du christianisme ne tiennent pas la route. Et du coup, c'est impossible d'être intelligent et chrétien. Non, les preuves tiennent certainement la route en faveur du christianisme. C'est juste que Dieu a choisi de ne pas se laisser trouver par des personnes qui se croient trop intelligents pour lui, trop sages. Il se révèle aux simples qui lui font confiance. Quelle bonne nouvelle! Dieu maîtrise parfaitement la situation. Nous devons louer Dieu pour son plan. Et si nous avons compris l'évangile, louons Dieu. C'est lui qui s'est révélé à nous. Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. C'est lui qui est venu à notre rencontre. Quelle grâce de sa part. Donc nous devons comprendre le plan du Père, dit Jésus. Mais si Dieu décide de se révéler à quelqu'un, comment va-t-il le faire? Comment connaître Dieu? C'est une question brûlante de nos jours. Si on tape ça dans Google, comment connaître Dieu, il y aura 10 000 réponses différentes. Mais Jésus nous dit, c'est la deuxième chose que nous voyons, verset 27, on ne peut connaître Dieu qu'à travers Jésus. On ne peut connaître Dieu qu'à travers Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel Dieu va se révéler à quelqu'un que par Jésus. Lisons le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. De nouveau, nous avons un aperçu des relations au sein de la Trinité ici, Dieu le Père, Dieu le Fils, qui se connaissent intimement depuis toute l'éternité. Et Jésus dit qu'il n'y a personne qui connaît le Père si ce n'est le Fils. Et donc, pour connaître le Père, qui peut le révéler? Mais c'est seulement le Fils, c'est seulement Jésus qui peut nous donner accès à Dieu le Père. Ça tombe sur le sens. Mais, dans notre société actuelle, on a tendance à penser que peu importe quelle religion on choisit, on finira tous par arriver à Dieu. On pense que si on suit l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, le catholicisme, on va tous arriver à Dieu. Mais Jésus dit que ce n'est pas le cas. C'est seulement ceux qui viennent au Fils qui pourront connaître le Père. Et donc, si nous sommes musulmans et nous croyons que Jésus était un simple prophète, mais pas plus que cela, Jésus dit que nous ne pouvons pas connaître Dieu. Si nous sommes juifs et nous ne reconnaissons pas que Jésus est le Messie envoyé par Dieu, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Si nous sommes témoins de Jéhovah et nous pensons que Jésus n'est pas Dieu, nous ne pouvons pas connaître Dieu. C'est seulement et uniquement par Jésus que nous pouvons connaître Dieu. Mais non seulement cela, nous voyons la richesse de notre relation, si nous sommes chrétiens, la relation avec Dieu. Parfois, nous pensons que d'être chrétien, c'est juste une question de se faire pardonner nos péchés pour avoir la vie éternelle. Et ce n'est pas moins que cela. Mais dans ce verset, nous voyons que Dieu nous invite à participer dans une relation intime avec le Père. Relisons le verset 27 de nouveau. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et, c'est peut-être le « et » le plus important dans toute la Bible, qui peut connaître le Père, le Fils, oui, mais « et » celui à qui le Fils veut le révéler. Nous pouvons connaître Dieu le Père si le Fils nous le révèle. Quelle relation extraordinaire si nous devenons chrétiens. Ce n'est pas juste des vérités à croire, la foi chrétienne. Oui, c'est des vérités à croire, mais c'est une personne à connaître, Dieu le Père. Nous entrons en relation intime avec lui. Dieu le Père, par Dieu le Fils. Il est seulement possible de connaître Dieu si nous passons par Jésus. Il faut abandonner toute autre tentative d'entrer en relation avec Dieu. Ça ne marche pas. Et en plus du fait que c'est impossible, Jésus veut souligner dans la troisième section à quel point c'est fatigant de chercher Dieu ailleurs qu'en Jésus. C'est fatigant de faire cela. Et donc il nous lance une invitation, versets 28 à 30. Il dit, venez à moi afin de trouver le repos. Venez à Jésus afin de trouver le repos. Il est toujours chouette de recevoir une invitation, n'est-ce pas? Une invitation à un mariage peut-être, ou lorsqu'on a des enfants, les enfants reçoivent des invitations pour les anniversaires, c'est très sympa. Et ici au verset 28, nous avons la meilleure invitation possible. Jésus nous appelle à venir à lui, à venir à lui. C'est différent de ce que d'autres enseignants religieux diraient, n'est-ce pas? Ils diraient « venez à Dieu ». Mais Jésus dit « venez à moi ». Parce qu'il est, Dieu, et celui qui nous donne accès à Dieu le Père. « Venez à moi ». Et qui doit venir? Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus parle des gens qui se fatiguent à cause des fardeaux qu'ils portent. À l'époque de Jésus, les chefs religieux avaient ajouté des règles et des règles à la loi de Moïse. C'était très contraignant pour le peuple de devoir observer toutes ces lois. C'était embêtant, fatigant. Et nous voyons cela au chapitre 12, là où nous allons voir ça la fois prochaine, lorsque les pharisiens interdisent le fait de juste de glaner un petit peu de nourriture le jour du sabbat en marchant dans le champ. Ils interdisent cela. Les pharisiens, ils ont interdit aussi le fait de guérir quelqu'un le sabbat, de lui faire du bien. Sous prétexte de leur loi. C'était fatigant, toutes ces règles qu'ils ont ajoutées. Et si on peut voir Matthieu 23, si vous avez la Bible sous les yeux, Matthieu 23, parce que Jésus décrit ce que les pharisiens faisaient. Ils ont mis des fardeaux lourds sur les gens, en disant, il faut obéir à telle et telle et telle loi pour gagner la faveur de Dieu. Ici, 23, versets 2 à 4. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants. Ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est ce que les scribes faisaient. Ils disaient, il faut obéir à toutes ces lois pour pouvoir avoir accès à Dieu. Et Jésus dit, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est un lourd fardeau. Et pour illustrer cela, j'ai besoin d'un homme qui est assez fou, fort. Donc, je ne sais pas, Max ou Jack ou Arnaud, quelqu'un se sent fort maintenant? Qui se sent fort? Quelqu'un? Max, tu te sens fort? Oui? Très bien. Donc, nous avons ici un lourd fardeau. Je ne sais pas si tu as mal au dos, Max. Non, ça va? C'est bien. Moi, j'ai encore mal au dos après avoir mis ça ce matin. Voilà. OK, donc ici... Est-ce que c'est lourd ou pas lourd?
Un peu lourd.
Un peu. Donc, même pour Max ici, c'est lourd. Ici, c'est le fardeau de la religion. Tu peux juste te mettre ici, comme ça je vois les gens, mais toi, tu peux rester très bien. Donc, le fardeau de la religion. On dit aux gens, il faut obéir à telle et à telle loi, toutes ces lois-là, pour espérer avoir une place au paradis. C'est ce que les scribes ont fait à l'époque de Jésus. Et c'est encore ce que les autres religions font aujourd'hui. Ils disent qu'il faut respecter, suivre les sept piliers de l'islam, et puis peut-être vous aurez une place au paradis. Il faut faire des bonnes œuvres pour mériter sa place au paradis. C'est ça ce que beaucoup de religions disent. C'est un fardeau, c'est lourd. Tu peux juste marcher un petit peu pour... voilà, c'est très bien, c'est très lourd. Et c'est un fardeau insupportable, et peut-être vous avez vécu cela, juste... Ce calcul, est-ce que j'ai fait suffisamment de bien pour impressionner Dieu? Est-ce que j'ai fait plus que bien que de mal? C'est terrible ça. On se tracasse parce qu'on ne sait jamais si Dieu va nous accepter ou pas. Comment savoir si nous avons fait suffisamment? C'est un fardeau qu'avait porté Martin Luther, si vous vous rappelez de lui, un moine au XVIe siècle qui était vraiment irréprochable comme moine, mais lui, il était tourmenté dans sa conscience. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas fait suffisamment de bien pour gagner la faveur de Dieu. Aussi, vous avez lu Le Voyage du Pèlerin. Je ne sais pas qui a lu Le Voyage du Pèlerin de John Bunyan. C'est excellent, mais il commence avec le fardeau de ses péchés. Et c'est seulement en voyant la croix de Jésus que son fardeau est enlevé enfin. Mais cela nous arrive de penser, oh, est-ce que j'ai fait suffisamment? Est-ce que j'ai fait suffisamment? Et ça, c'est le fardeau de la religion. Ça va? Tu tiens le coup? C'est bien. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Si nous venons à Jésus, il nous enlève le fardeau. Ah, c'est mieux? C'est mieux. Quel soulagement, n'est-ce pas? C'est un repos pour nos âmes. On est ouf, léger maintenant, n'est-ce pas? Tu dois rester là, c'est pas encore terminé. Mais quelle joie de pouvoir se coucher le soir, non pas en comptabilisant le bien et le mal qu'on a fait, mais en sachant définitivement qu'on a sa place au ciel réservée pour nous grâce à ce que Jésus a fait une fois pour toutes. Quelle différence, quel repos pour nous a, n'est-ce pas? Mais c'est pas le repos que Jésus nous donne, ce n'est pas un repos devant Netflix, avec un verre de vin et on dévore les séries. Ce n'est pas ça le repos dont parle Jésus. Il veut que nous fassions des choses pour lui. C'est ça ce que nous voyons au verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Donc Jésus nous demande de le suivre. Nous avons plein de choses à faire dans la vie chrétienne, mais l'optique dans laquelle on les fait change complètement. Au lieu de dire « je fais ces choses pour gagner ma place au paradis », on dit « Jésus a gagné ma place et je fais ces choses par amour pour mon Sauveur ». Et en comparaison avec le lourd fardeau, nous allons verset 30. Qu'est-ce que nous lisons en verset 30? « Mon fardeau est léger, mon joug est doux. » C'est mieux?
C'est beaucoup mieux.
C'est beaucoup mieux. Voilà, il peut courir jusqu'en haut de la montagne maintenant, Max. Parce qu'on suit Jésus avec joie. Oui, il nous demande de tout quitter pour lui, mais c'est une joie de le faire. Parce qu'il n'est pas comme un directeur de l'école en train de nous crier dessus ou pas comme un entraîneur de foot qui nous dit ce qu'il faut faire en se cachant sous la parapluie lorsqu'il pleut. Non, verset 29, comment est-ce qu'on décrit Jésus? Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Quelle joie de servir un tel maître, qui est doux, qui est humble de cœur, qui veut notre bien, qui veut qu'on grandisse et qu'on fasse confiance en lui de plus en plus. Quelle invitation formidable de laisser de côté le fardeau de la religion, de ne plus être dans le « je dois faire » pour hériter la vie éternelle, mais de voir que Jésus a tout fait par sa mort à la croix. Il m'invite à le suivre et je veux le faire par joie. Merci Max, tu peux t'asseoir, c'est très gentil. Quelle invitation glorieuse, n'est-ce pas? Si vous êtes ici fatigué dans votre recherche de Dieu, vous avez tout essayé, mais il n'y a rien qui vous donne le repos de votre âme. Entendez l'appel de Jésus, venez à moi, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Et si vous êtes déjà venu à Jésus, si vous faites confiance en lui, mais soyons émerveillés devant le joug que Jésus nous a donné, le fardeau qu'il a enlevé. Parfois, on peut tomber dans le piège de penser que nous portons encore ce fardeau, le fait de suivre Jésus, on pense que c'est « oh, c'est contraignant, c'est difficile, c'est lourd ». Mais nous oublions que notre maître est doux et humble de cœur. Nous oublions que son joug est léger et son fardeau également. Le suivre, c'est une joie parce qu'il a pris notre fardeau, notre péché sur lui. Et nous pouvons le suivre avec joie. Et dont nous jouissons d'un repos extraordinaire qui dépasse les circonstances de la vie. Dans un instant, nous allons chanter le chant « Quel repos céleste ». Et vous avez peut-être entendu l'histoire derrière ce chant. C'était un homme d'affaires, un Horatio Spafford, qui était riche aux États-Unis, mais il a investi dans l'immobilier dans Chicago et il y avait un incendie qui a réduit la ville en cendres. Il a perdu la plupart de son argent. Et ensuite, ils ont choisi en tant que famille d'aller en Angleterre. Il a dû envoyer sa femme et ses quatre filles d'abord. Mais le 22 novembre 1873, le bateau à vapeur Ville du Havre coule, percuté par un autre navire. Et les quatre filles de Horatio Spafford meurt. Et dont la femme arrive en Angleterre et elle envoie un télégramme à Spafford commençant par « Seul sauve ». Sauvé seul. Et Spafford ensuite, il embarque pour l'Angleterre en passant par le lieu de décès de ses filles. Et apparemment, c'était lors de ce voyage qu'il a écrit le cantique « Quel repos céleste ». De même face aux circonstances les plus difficiles et plus pénibles imaginables. Si nous connaissons Jésus, nous avons un repos qui dépasse toutes circonstances. Si nous venons à Jésus comme un enfant, pas comme un sage, pas comme un intelligent, comme un enfant, pour le pardon de nos péchés, nous connaissons Dieu le Père. Il nous aime et cela ne dépend nullement de nos actions, mais entièrement de la mort de Jésus. Et cela nous permet de chanter « Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Quel repos céleste, Jésus, d'être avec toi. À toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. » Il s'agit de la meilleure invitation que l'on puisse imaginer, de venir à Jésus pour trouver le repos de nos âmes. Êtes-vous venus à lui? Vous ratez quelque chose d'extraordinaire si vous ne le faites pas. Et si nous sommes venus à Jésus, émerveillons-nous devant nos privilèges. Nous connaissons Dieu le Père. Nous n'avons plus de fardeau. Et nous suivons Jésus. Et son joug est léger. Et il est humble et doux comme maître. Toutes ces bénédictions sont à nous parce qu'il nous les a révélées. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Notre Père, nous voyons dans ce passage que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants, à ceux et celles qui sont prêts à admettre qu'ils ont besoin de ton pardon. Et nous voulons de nouveau admettre notre besoin de ton pardon, notre besoin de la mort de Jésus à notre place. Et nous te louons parce que si nous connaissons Jésus le Fils, nous te connaissons, toi le Père, quelle grâce. Et nous te louons parce que si nous sommes venus à lui, nous avons trouvé le repos de nos âmes. Nous n'avons plus le fardeau de la religion, de l'obligation légale, mais nous avons la joie de te suivre comme notre Maître qui est doux et humble de cœur. Quelle joie, Seigneur. Nous te louons au nom du Seigneur Jésus. Amen.